Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Un pays sans archives bien organisées est semblable à un avion qui a perdu contact avec la tour des contrôles, affirment certains experts. En RDC, l'administration publique, les ONG, les sociétés privées et autres structures ne disposent pas des services d'archives dignes de ce nom. Plusieurs documents ont servi des papiers d'emballage, d'autres sont mal conservés, mal organisés. Alors, cela nous amène à nous poser la question de savoir quel est le rôle et l'importance des archives dans l'administration publique. Ça peut être dans une structure donnée à travers le pays. Eh bien, pour avoir les réponses à toutes ces questions, nous recevons à présent le professeur Denizo Katou. Il enseigne la bibliothéconomie et archivistique. Il est spécialiste en information organique. Encore une fois, bonjour professeur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Alors la première question est de savoir, c'est quoi, quand on parle des archives, c'est quoi les archives?
Ben, d'une façon ramassée, les archives sont simplement un ensemble de documents produits ou reçus par un service public ou privé dans le cadre de ses activités et dont la conservation est justifié pour des raisons de fonctionnement ou pour des raisons de témoignage historique. Voilà la définition des archives.
Les archives, voilà. Alors maintenant, quel est le rôle des archives?
Le rôle, vous l'avez déjà vu dans la définition, quand j'ai dit « dont la conservation est justifiée par le fonctionnement ». Donc, les archives ne sont rien d'autre que les témoignages de ce qui se fait dans une institution. Donc, si vous voulez voir le miroir de ce qui se fait dans une institution, mais vous devez aller dans les archives. En fait, à longueur de journée, les institutions publiques, privées font quoi? Les administrations publiques. Ils produisent des informations.
Oui.
Or, ces informations-là sont produites dans le cadre de leurs activités. Et ces informations produites ne peuvent être que consignées quelque part, n'est-ce pas? Dans des supports multimédia, j'espère qu'on en parlera. Et c'est ça qui constitue les archives. Contrairement à une vision anachronique à laquelle vous avez fait allusion, les archives ne sont pas archives parce qu'elles datent d'il y a un siècle. Non. Un document qui est produit aujourd'hui, si elle cadre avec des activités d'une affaire, s'il est dans un dossier, s'il peut justifier demain de cette activité-là, eh bien, c'est un document d'archives.
Voilà. Alors, l'importance, parlons maintenant de l'importance des archives. Il semble que c'est pour besoin de mémoire, c'est pour peut-être, quand on parle des archives nationales, pour permettre aux générations futures de connaître l'histoire, ce qui s'est passé, de retrouver les traces.
Mais je l'ai dit, je dois le redire pour vos nombreux
auditeurs. Oui.
L'importance des archives s'impose. Parce qu'en réalité, pourquoi vous produisez les archives? Parce que vous voulez vous reconnaître à travers ce que vous produisez. Et vous savez que nous sommes perfectibles. Et lorsque nous produisons demain ou même aujourd'hui, comment pouvons-nous être sûrs de ce que nous produisons? Et ce que nous produisons, en général, dans une administration, dans une entreprise publique ou privée, nous le produisons dans le cadre d'un job description. C'est parce que vous êtes chargé de ceci que vous allez produire des informations. Et les informations que vous produisez doivent cadrer avec votre travail. Vous ne pouvez pas être chargé de finances et vous allez produire des informations sur les choix automobiles. Vous voyez qu'il y a une adéquation là-dedans.
Vous restez dans votre domaine.
Et vous restez dans votre domaine. Et ces informations-là consignées, leur importance c'est quoi? Lorsque vous voulez prendre une décision, vous devez avoir un cadre de référence. Vous devez avoir un référent. Si vous êtes dans une administration, vous devez promouvoir quelqu'un. Mais vous devez savoir que pour promouvoir quelqu'un, il faut qu'il remplisse un certain nombre de conditions, n'est-ce pas?
Oui.
Et ces conditions-là peuvent être d'ordre d'ancienneté, ça peut être d'ordre de qualification. Mais tout ça est consigné dans des dossiers. Dans des dossiers qu'on appelle dossiers administratifs ou dossiers simplement d'archives. Donc l'importance, c'est l'appui aux décisions. Si vous voulez prendre des décisions rationnelles, efficaces, efficientes, il faut recourir aux documents que vous avez constitués vous-même, qui contiennent la mémoire du fonctionnement de votre institution.
Alors, quelles sont les formes d'archives qu'on peut retrouver ou qu'on retrouve?
Le concept de forme peut être interprété de plusieurs manières. Forme sur le plan des supports, forme sur le plan d'origine de ces archives. Je ne sais pas concrètement à quel...
Bon, on va aborder les deux. Commençons d'abord par sur les plans des supports, les supports pour conserver ces archives.
Vous voyez, quand j'ai défini les archives, je ne les ai pas liées à un quelconque support. Donc, quel que soit le support, quelle que soit leur date, les archives, donc ça peut être sur support papier. Les archives, d'ailleurs, les plus classiques sont sur support papier. Ça peut être sur support, qu'on peut résumer multimédia, donc sur un flash, ça peut être sur la mémoire... d'un laptop ou d'un desk, ça peut être, bref, sur tous les supports, y compris les supports modernes que nous connaissons. Donc, c'est là.
À l'époque, dans l'histoire, on utilisait
les papiers. Et quand on va en arrière, longtemps en arrière, les papiers n'existaient même pas. On parlait, par exemple, de documents qui étaient sous pupitre à Rome. Les tablettes d'argile en Égypte. On constituait des archives. Voyez-vous? Donc, quand nous parlons des archives, nous ne voyons pas la date, nous ne voyons pas les supports qui contiennent ces documents. Pour nous, le plus important, c'est que la personne qui constitue les archives décide de son support de conservation.
Est-ce qu'il y a un support qui est le mieux adapté par rapport à d'autres?
Écoutez, aujourd'hui, il y a un débat autour des archives traditionnelles, donc sous format papier. Et dans le cas de notre pays, ce sont les archives les plus évidentes. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés, malheureusement.
On a eu des papiers classés dans l'administration publique, par exemple, il y a eu pillage, on va incendier les bureaux, et voilà, toutes les archives sont parties.
Oui, mais
on perd tout, perdu beaucoup d'informations.
Mais les incendies... ne justifie pas toujours la disparition des papiers. Même si vous mettez dans un support moderne, par exemple, informatique et tout support informatique, mais tout ça ne sont pas à l'abri des incendies aussi. Donc aujourd'hui, il y a tout un débat avec la place qu'occupe l'informatique. Il y a toute une série de gens qui pensent que les archives classiques peuvent disparaître. Moi, je suis de ceux qui croient que les archives classiques ne vont pas disparaître, mais plutôt vont bénéficier de l'appui des nouvelles technologies, de l'information, de la communication.
Bien, quel est le rôle et l'importance des archives? Nous avons des auditeurs en ligne. Jérémy Midon nous appelle des Mandonouvilles. Albert Mwananga se trouve à Kananga. Vous voulez également participer? Le standard est déjà ouvert. Composez les 081-890-6394.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Jérémy Do, de Bandundouville, bonjour.
Oui, bonjour Jotika Chama, bonjour à l'invité.
Bonjour, on vous écoute.
Bon, je ne sais pas, ça fait plus ou moins 2 semaines où j'ai déplacé. Là où j'ai parti, il n'y a pas Radio Capi, c'est pour cela il y a un petit accalmie là. Mais ma question est celle-ci à l'invité où je peux poser. Lorsque vous partez ou bien vous faites une recherche là, vous partez dans l'ordinateur ou dans l'internet, vous trouvez une autre rubrique. Donc si vous revenez dans les anciennes archives ou dans les bibliothèques, vous trouverez aussi une autre rubrique. Je ne sais pas. Quel est le meilleur archive qu'on peut suivre? On peut suivre l'internet ou les anciens archives? Parce que quand aujourd'hui on dit la science évolue, donc beaucoup de choses s'améliorent. Je ne sais pas si l'invité peut me faire un éclaircissement par rapport à ça.
Merci, Jerry. Albert Mwananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
La première question, c'est de savoir quel genre d'archives qu'on peut garder et considérer afin que nous puissions prendre connaissance sur ça, surtout à la maison. Et la deuxième, monsieur le journaliste, quand est-ce qu'on peut constituer les archives et comment les garder ainsi que les organiser? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole.
Bien, Rachel Ndjounjou, vous nous appelez d'Issiro, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai des petites questions à poser à l'invité. La première est de savoir parce que je viens de ces élèves en fait de dire que non, on peut conserver les archives dans des mémoires, des laptops. Et j'aimerais savoir si on n'a pas des moyens pour avoir des laptops, comment peut-on conserver les archives à la maison, comment? Et dans la deuxième question, je viens de la poser, j'aimerais savoir si quels sont les documents qu'on peut conserver comme les archives. C'est un peu ça.
Bien, merci Rachel, professeur. Denis, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
J'espère que vous allez me rappeler les questions.
Oui. Alors, il y a Jerry Mindo de Bandono qui parle de l'Internet. Il était sur Internet, il a cherché un document, il revient après, il ne retrouve pas. Alors, il veut savoir quel est le meilleur archive.
Ben ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, avec les archives. Les archives ne peuvent être archives que lorsqu'ils sont produites dans le cadre d'une activité, comme je vous ai dit, et dont la conservation a pour objectif de justifier le fonctionnement ou les témoignages historiques. Donc,
Albert nous dit par exemple qu'à la maison, en famille, quel type, on peut aussi conserver des archives.
Mais à la maison, vous savez qu'il y a des penseurs, il y a des notables, il y a des hommes, des grands hommes du monde qui ont livré à leur pays, au monde, leur patrimoine archivistique. Donc, toute la documentation qu'ils ont constituée par rapport aux affaires qu'ils ont eu à traiter. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que ces affaires-là pouvaient profiter à la nation. Là, c'était des archives privées. Mais ils ont légué ça, c'est ça l'expression, légué ça à la nation. Alors, mais les archives, comme je
l'ai dit... Ça peut être quoi, des livres, des tableaux, des peintures?
Les livres en soi... ne peut pas, j'ai dit en soi, on ne peut pas constituer un document d'archive en soi, sauf si on se place dans le cadre d'une maison d'édition. Vous voyez, une maison d'édition qui produit des livres, je veux dire, ne fait que la production des livres. Et dans ce cadre-là, elle est obligée de garder des exemplaires de ces livres-là, qui constituent les archives, si vous voulez. Mmh. Vous voulez dire, allez dans telle collection, de telle année, on vous trouve l'exemple. Ça constitue des archives. Mais si nous revenons dans le contexte que tout le monde peut bien comprendre, le contexte du fonctionnement normal en famille. Mais vous êtes une famille qui exerçait beaucoup d'activités. Vous avez des affaires, une petite entreprise. Vous avez le management même de la maison. Une maman peut constituer des archives en rapport avec le management de sa maison. Par exemple, comment il paye les frais d'études de ses enfants, comment il s'approvisionne mensuellement, par exemple, pour la nourriture, comment... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ce qui peut lier à la vie de la maison,
son activité,
à son maison, il peut constituer des dossiers. En fait, les archives, de façon générale, on constitue des dossiers par affaires. Ça, c'est une affaire qui concerne...
Avec des photos, par exemple. On
peut... Les photos peuvent constituer aussi des archives.
Des archives.
Des archives. Ouais. C'est un document, une photo. Voilà. Alors, j'ai entendu aussi un de vos auditeurs qui disait les archives, le dernier, là, je crois, qui a parlé.
Oui, qui n'a pas de laptop, hein, Rachel, ils seront...
Oui, non, je n'ai pas dit...
Elle n'a pas de laptop, alors non, comment...
Il faut que je sois clair.
Oui.
J'ai dit qu'il y a deux types d'archives, du point de vue format,
oui,
au support de conservation. J'ai dit que, de façon traditionnelle, toute la production des informations était couchée ou conservée sur du papier. Et j'ai dit que cette pratique-là est encore en usage presque à 100% dans notre pays, compte tenu du fait que le niveau d'intégration des technologies de l'information et de la communication, donc, où l'on peut placer les laptops et les ordinateurs, n'est pas très développé, comme vous le savez, dans notre pays. Donc, ce serait une utopie que de dire aux gens, abandonnez le papier, allez vers les mémoires d'ordinateur et tout ça, ce serait une utopie. Mais par contre, le Congo doit se placer dans l'orbite de ce qui se fait à travers le monde. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la dématérialisation des archives. on parle de la transition numérique. On parle du numérique. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des formes de conservation de l'information. La transition numérique, par exemple, ce sont des projets qui sont développés à travers le monde pour arriver à des bureaux comme là au studio où nous sommes, mais c'est les journalistes, sans papier. Mais nous niançons, nous disons qu'il est difficile de pouvoir se séparer du papier. Parce que même ce que vous mettez dans un ordinateur,
oui,
vous l'écrivez et vous êtes toujours tenté de pouvoir l'imprimer. Et dans un pays comme le nôtre, confronté au problème d'électricité, confronté au problème que vous pouvez imaginer, il est difficile de pouvoir... Donc, on parle de fracture numérique.
Alors, et de fracture numérique. Oui, il y a une question. Par exemple, dans une entreprise, vous avez dit les archives, c'est dans le cadre des activités que vous exercez. Vous gardez les documents, les dossiers, vous constituez les dossiers. Alors, comment les cataloguer? Comment les numéroter pour les retrouver facilement? Par exemple, des documents, il y a, par exemple, 10 ans, 20 ans. Comment organiser tout ça?
Mais ça, c'est un exercice technique qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela que les administrations ont intérêt à avoir avec eux des spécialistes de ce domaine-là qui savent mettre en place ce qu'on appelle le plan de classement des archives. Parce que les archives doivent être conservées ou classées plus ou moins comme les livres dans les bibliothèques. Vous voyez les livres dans les bibliothèques, quand vous allez, vous dites, moi, Kachama, je voudrais prendre un livre d'histoire. Mais si le livre est identifié, localisé dans la bibliothèque, on va dans les rayons et on vous le trouve. Mais on ne vous le trouve pas comme ça. C'est parce qu'il y a un plan de classification. Bon, là, ce sont des aspects techniques. Je ne sais pas si vos autorités vont comprendre. Par exemple, on peut avoir un plan de classification de la DOE, ce qu'on appelle la CDD, classification décimale de DOE, où chaque chiffre est en rapport avec un domaine. Par exemple, on dira... Le chiffre zéro. Tout ce qui est religion, philosophie et tout ça, vous allez le retrouver là-dedans. Par exemple, 6, technique. Tous les livres qui sont en rapport avec la technique, vous allez les trouver là. Et d'ailleurs, tous ces livres-là vont porter ces chiffres-là développés. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan de classification. Et le plan de classement, dire ici nous mettons ceci, selon une certaine logique. Mais ça, c'est un travail pour lequel. Les simples usagers ne doivent pas s'en faire. C'est normalement les managers qui doivent mettre en place ce système pour que les utilisateurs se retrouvent facilement. Donc, et si vous n'avez pas ça, vous savez, nous tous, nous partageons les mêmes choses, les spécialistes de l'information, mais une information qui n'est pas à sa place, c'est une information perdue. Donc, il n'y a que la classification, il n'y a que les classements qui peuvent nous aider à identifier là où se trouve l'information, sans perdre du temps ni de l'argent. Parce que, comme disent les anglophones, time is money.
Time is money. Est-ce que dans l'administration publique ou dans les entreprises privées, l'archivage est bien... Vous avez sûrement eu à faire des enquêtes là-dessus. Non, c'est bien organisé?
Ma propre thèse a consisté à conserver la prise de décision en se basant sur les archives dans les administrations, principalement l'enseignement supérieur, à la fonction publique, éducation et tout ça. C'était une étude. Et on a observé, on a vu que les archives dans notre pays, comment dirais-je, sont les filles des parents très, très, très pauvres. Je crois que vous me comprenez, monsieur le
président. Je comprends. Donc, c'est très négligé.
Ils sont relégués au dernier souci. Et ça, c'est un danger pour notre pays. Parce qu'un peuple sans archives organisées, c'est un peuple qui ne peut pas aller de l'avant. C'est un peuple qui est aveuglé et il ne peut pas être dans l'orbite du développement moderne.
Donc là, on a...
Le Congo a véritablement un problème.
Un problème d'archivage.
Ouais, tout à l'heure, je vous parlais de fracture. Vous m'avez suivi, fracture numérique.
Oui.
Et j'ai parlé de facture. Fracture, donc les fossés, tandis que la facture numérique, c'est le coût de ce que peut coûter un laptop, un desk et tout ça. Et ça, c'est les combats à travers le monde. Tout le monde s'est dit, nous devons renforcer notre capacité en faisant recours aux technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est les combats de tout le monde. Mais, question, où sommes-nous dans ces combats-là? Mais, le traditionnel déjà est mal organisé. Regardez où sont logées les archives nationales du Congo. Vous voyez l'avenir de la justice à côté de sapeurs-pompiers. Mais c'est là, donc, un petit cabaret comme ça pour les archives nationales du Congo. En fait, les archives nationales, là, vous m'avez encore posé la question, sont censées recevoir les archives qui auront échappé au tri et élimination. C'est-à-dire que lorsque l'administration ou les entreprises auront utilisé les archives pour leurs propres besoins, à un moment donné, ils se posent la question, parce que ces archives ne répondent plus à notre besoin, qu'est-ce que nous en faisons?
On les envoie à ce moment-là.
En ce moment-là, des spécialistes les organisent et on les envoie aux archives nationales. Ils deviennent des archives historiques. Parce que les archives ont deux types d'utilisation. L'utilisation administrative et l'utilisation d'histoire. Mais quand vous avez un petit réduit comme les bâtiments qui
abritent les archives nationales,
qu'est-ce que vous pouvez attendre comme résultat de cela? Nous ne nous prenons pas au sérieux.
Voilà. Nous avons en ligne Tite Bafoua. Il nous appelle de Goma, au Nord Kivu. Bonjour Tite.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour et bonjour, bonjour. Notre invité. J'aimerais poser la question à l'invité.
Oui.
Quel est le moment profité par les législateurs qu'une archive ne peut plus fournir des informations fiables à l'administration fiscale? Et aussi, quel est le moment qu'une entreprise peut déconsidérer ses archives?
Bien, merci. Professeur Denis.
Ben, écoutez, d'abord, la vie des archives correspond plus ou moins à la vie des hommes. Donc, les archives sont expliquées par rapport à une théorie qu'on appelle la théorie des trois âges. Trois âges.
Mm-hmm.
Premier âge, les documents produits par l'administration, l'entreprise privée ou publique,
oui,
servent presque au quotidien à l'administration elle-même, hein, pour prendre des décisions, etc. etc.
Mmh.
À un moment donné, l'utilisation commence à baisser. On les appelle archives intermédiaires. Alors que le premier âge, on appelle ça archives courantes. Donc, ceux qui répondent à 100%.
Voilà. Besoin immédiat.
Mais les archives de premier et deuxième âge sont un patrimoine de l'administration qui les a produites ou reçues. Alors, quand ils ont terminé cette période-là, elles peuvent éventuellement, devenir patrimoine culturel national. Alors, donc, il faut d'abord inscrire la traçabilité archivistique par rapport à ce plan-là. Alors, maintenant, notre ami me dit à quel moment. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas de moment. Tout dépend des besoins. Est-ce que nous sommes devant un besoin historique? Auquel cas, en ce moment-là, l'administration n'a rien à voir parce que l'administration a fini sa mission avec les archives en tant que propriétaire.
Oui.
Est-ce que nous sommes dans un besoin administratif? Et c'est le besoin le plus permanent. Parce que les archives sont d'abord un besoin de l'administration qui les a produites ou reçues. Ce sont ces biens. Et la production est justifiée pour prendre des décisions qui ne soient pas des décisions, comment dirais-je, à la légère, etc. Mais imaginez-vous un directeur du personnel qui va promouvoir quelqu'un qui vient de commencer il y a une année, simplement parce qu'il n'a pas consulté les archives pour dire, pour être promis, il faut avoir une ancienneté, par exemple, de 4 ans. Et lui, il va promettre quelqu'un qui a une année. Vous voyez que là, c'est une faute administrative,
oui,
par manque de loi. Maintenant, par rapport à la loi, mais les archives font l'objet d'une légifération au niveau du Parlement. Il y a des lois sur les archives. Il y a des lois sur la communication. Parce que tous les documents ne sont pas communicables. Documents, par exemple, d'archives de l'ANER. De l'armée, des affaires étrangères, certaines conventions.
On ne peut pas les mettre à la place publique.
Mmh. Ils font la loi. Et il y a des documents, par exemple, des finances. Dans notre pays, c'est 10 ans.
Il faut les conserver
pendant 10
ans.
Avant de les mettre à la place publique. Donc, tout ça, c'est réglé par la loi. Mais au niveau de l'administration, il y a tout un travail qui se fait avec les spécialistes. On appelle ça calendrier de conservation des documents. Il faut que l'administration qui doit être désengorgée. Vous voyez l'immense...
Vous avez siècle, de la paperasse, beaucoup de papiers, voilà, dans le bureau.
Siècle,
ici,
hein. Notre siècle, même si vous recourez, même si vous recourez aux technologies de l'information, oui. Mais la mémoire a des limites.
Donc vous allez mettre dans les CD, on peut les garder...
Oui, mais les CD aussi ont des limites. Donc il faut savoir élaguer les informations qui ne sont plus utiles. Et l'élagage là doit se faire dans les normes. On appelle ça calendrier de conservation qui s'appuie sur des règles de conservation. Lesquelles règles de conservation tiennent compte de la loi nationale ou des lois nationales et des règles administratives montées ensemble par les partenaires administratifs.
Nous avons des auditeurs en ligne. Paulin Poutou de Kananga, Ougui Bendelo nous appelle des Cucuit. Paulin, bonjour. Paulin, bonjour.
Bonjour, c'est Paulin Poutou de Kananga. Je dis bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Catholique.
Bonjour.
Quelle est votre question, Paulin?
Oui, je vais demander à l'invité qu'il puisse m'aider avec certains conseils. J'ai mes notes de cours, mais j'ai le souci de créer des archives, par exemple. Mes notes de cours, je les ai sur ma machine, donc l'ordinateur portable que j'ai. Maintenant, jusqu'à là, je n'ai pas encore jugé bon de l'imprimer. Je peux le conserver sur ma machine ou bien que ça soit sur le papier.
Merci, Paulin. Ogi Bendelo de Kikuita, bonjour.
Bonjour, je dis une fois de plus, merci. Je salue aussi notre invité. J'ai bien suivi notre invité avec ses explications. C'est très clair. Ma question par rapport au sujet, je voulais aussi contribuer dans le sens que les archives sont bonnes, comme l'a dit notre invité, que c'est l'appui aux décisions non seulement bonnes, mais aussi mauvaises. Conformément à la Bible, Esther chapitre 2, le témoin que Mardochée eut connaissance du complot contre les rois et informa à la reine Esther qui informa aussi à son mari et lui en écriva dans les livres des annales, donc les chroniques. Et lors du complot contre Mardochée, le roi revit ses annales et vit ce que Mardochée avait fait pour lui et laissa la vie sauve à Mardochée, donc grâce aux archives. Mais mon inquiétude, je voulais demander à notre invité si quel conseil il pouvait donner au chef d'établissement surtout. Parce que moi, j'avais fini mes études secondaires à l'an 2000. 2002, c'était 2 ans passés lorsque j'ai retourné à l'école pour avoir mes dossiers. Le chef d'établissement cherchait et ne voyait rien.
Le chef d'établissement scolaire.
Oui, le chef d'établissement scolaire. Donc, sur notre dossier, toute notre promotion, il ne voyait aucun de nos dossiers. C'est pourquoi je voulais demander à notre invité quel conseil peut-il donner surtout au chef d'établissement scolaire qui néglige les dossiers des élèves qui avaient déjà fini 2-3 ans passés, voire même plus.
Bien, merci. Professeur Denis.
J'ai réagi immédiatement par rapport à notre dernier invité,
dernier auditeur.
Et voilà, les chefs d'établissement qui sont incapables de pouvoir les trouver,
les dossiers des élèves.
D'abord, c'est une faute. Parce que chaque élève, doit faire l'objet d'un dossier. Et toute la production informationnelle les concernant doit être contenue dans son dossier. Donc au fur et à mesure, depuis l'inscription, qu'il y passe de classe, on met la copie de son bulletin. Il obtient un certificat, on met la copie. Il y a une liste des élèves de telle promotion, de telle autre promotion. Donc on ne peut pas comprendre que... Et là, c'est... Monsieur le journaliste, c'est l'exemple le plus patent de la désorganisation. Mais imaginez-vous, et les cas comme celui-là sont légion.
Il y a des élèves qui, plus tard, ils vont en Europe, on leur exige des diplômes, ils reviennent à l'institut pour demander, par exemple, tel document.
C'est compliqué. On ne les trouve pas. Et sous d'autres cieux, vous êtes l'objet d'un procès. Parce que vous savez, Il y a deux concepts importants. Il y a le droit à l'information. Donc tout citoyen a le droit de disposer de son information. Et il y a le droit de l'information. Et ça, je fais allusion aux informations dont on parlait, qu'on doit protéger.
Oui.
Mais le droit à l'information, c'est ce qui est commun à tout le monde. Donc quelqu'un qui a étudié dans un établissement, que ce soit de l'enseignement supérieur ou primaire et secondaire, qui vient réclamer son relevé, qui vient réclamer, on dit on ne vous voit même pas dans les palmarès et tout ça, mais c'est pas possible. Pourtant, la personne a bel et bien étudié,
dans cette école-là,
dispose même des documents, livrés par reçu ou autre, livrés par la même institution. Donc, la solution...
Là, on peut poursuivre les chefs d'établissement.
Absolument. La solution, c'est une politique d'organisation des documents administratifs ou les documents d'archives. D'organisation avec un plan de classement, comment dirais-je, promotion par promotion. Il suffit de dire, ça c'était promotion 2012-2013. Là, c'est promotion 2011-2012. Et faire en sorte que les pièces à l'intérieur suivent la logique de l'évolution de l'élève ou de l'étudiant.
C'est parce qu'il n'y a pas de spécialistes dans ce domaine.
Il n'y a pas de spécialistes. Vous savez, monsieur le journaliste, aux États-Unis, depuis vers les années de la Deuxième Guerre mondiale, la fin, ils ont pris conscience de cela et ils ont mis en place ce qu'on appelle le record management. Le record management, en fait, c'est la gestion des informations dans l'administration. C'est simplement ça.
Mmh.
Il faut appeler des spécialistes qui aident l'administration à mettre en place des plans de classement, plans de classification, pour que à tout moment, lorsqu'on demande... Mais quand vous perdez autant de temps pour retrouver une information, vous n'êtes pas efficace. Vous savez que à travers le monde, les administrations, les entreprises fonctionnent selon les résultats. Quand tu viens à ton service le matin, tu dois savoir à la fin de la journée qu'est-ce que tu as produit. Mais si tu fais une heure pour retrouver un document...
C'est une perte, une perte de temps énorme.
L'entreprise ne peut pas être efficace,
efficace
et compétitive.
Sûr. Alors, Paulin de Kananga dit, est-ce qu'il peut archiver ses notes de cours, par exemple, dans son laptop, ou bien en dur, imprimé, garder les papiers?
Comme les cours sont dans le laptop, il doit créer des fichiers. Il doit, exactement, c'est un problème de logique. Il doit créer des fichiers et il sort un relevé de ce fichier-là. Tel fichier, telle adresse. Vous savez, dans un laptop, vous pouvez mettre les documents sur les bureaux, sur mes documents, vous savez, vous-même.
Oui.
Alors, mais c'est lui, parce que ils ont l'objectif de toute organisation, c'est qu'on puisse se retrouver pour les besoins qui s'imposent.
Mmh.
Et les besoins, c'est quoi? C'est ce qui nous manque.
Donc, il faut vous créer un fichier, vous mettez la date, l'année, tout ça.
Parce que même si vous travaillez avec l'ordinateur, si vous ne savez pas organiser les données qui sont dans votre organisation,
vous n'allez pas les retrouver facilement.
Vous retrouvez. On vous pose la question, telle date, on vous a envoyé tel document, vous ne savez pas les retrouver. Vous ne savez pas où est-ce que vous l'avez enregistré. Donc, il faut créer un fichier, un relevé. C'est la même logique que ce soit format papier ou format électronique.
Électronique. Hein.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que les musées sont des formes d'archives, non?
Les musées ne sont pas des archives, mais les documents des musées peuvent être des archives.
Des archives. Bien, on retient, professeur Denis, que les archives sont très très importantes et que vous avez dit dans notre pays, c'est relégué, c'est la dernière fille du parent pauvre, donc c'est pas considéré dans notre pays et pourtant c'est très très important. C'est important de conserver les archives. Alors s'il y a par exemple des gens qui aimeraient bien vous contacter après l'émission pour avoir les conseils ou vous appeler peut-être à les aider à organiser les archives, on peut vous joindre à quel numéro? Est-ce qu'il y a-t-il un numéro ou une adresse email par laquelle on peut vous joindre?
Oui, mon numéro, je ne sais pas si 0098 21
oui.
56 51, je crois que ça suffit.
Mm-hmm.
Et
09 98 oui.
21 56 51.
Voilà.
Alors, Denis à minuscule point Nzonkatu. Il y a des N, comme tu le sais.
Mmh.
@ AUFA comme Antoine, I comme Urbain, F comme François,
okay.
.org. Org comme organisation.
Okay.
Alors, c'est le mail qu'on utilise au quotidien parce qu'il est professionnel. Vous savez, je travaille et je m'occupe de l'information scientifique et technique et de la gestion. À l'agence universitaire de la francophonie.
Okay.
Donc, je suis tous les jours devant mon ordinateur. Donc, quand un message m'arrive, c'est plus facile. Au lieu de donner les autres emails qu'on consulte irrégulièrement.
Ah, on me fait signe que votre téléphone sonne déjà de l'autre côté de la baie vitrée. Donc, les gens ont commencé déjà à appeler. Alors, professeur Denis Nzokato, je rappelle que vous êtes professeur, vous enseignez à la bibliothéconomie et archivistique, spécialiste en information organique. Merci et à la prochaine.
Allez, c'est moi qui vous remercie. Au capi.